Je m'appelle Julius Canard et je désire que mon nom bientôt s'efface avec ma vie. Vous comprendrez peut-être pourquoi, au terme de ma douloureuse histoire.
Nocturne d'Henri Gougaud, interprété par Ben Hammer.
Il y a quelques années, feuilletant avec délectation un bel ouvrage de mythologie populaire que venait de m'offrir ma femme, je découvris un conte arabe dont le charme serein me ravit. Ce conte disait à peu près ceci. Un jour, un pauvre paysan disparant, accablé de fatigue et de chaleur, s'assit dans son jardin à l'ombre d'un figuier. Contempla un instant sa vieille maison couleur de terre ensoleillée, se laissa bercer par un chant de sources et s'endormit. Alors, un rêve étrange le visita. Il fut tout à coup transporté dans une ville inconnue magnifique et populeuse. Errant par les ruelles, il parvint au bord d'un vaste fleuve qui traversait un pont de pierre. Contre le parapet de ce pont, il aperçut une borne. Et près de cette borne, dans une niche dissimulée par une touffe d'herbe, il vit un immense trésor. Alors, sans trop savoir comment, il sut qu'il était dans la grande cité du Caire, en Égypte, et son rêve s'effaça. Or, cet homme simple croyait à la clairvoyante magie des songes. À peine éveillé, il ferma donc sa porte à double tour et s'en fut pour la lointaine ville aux mille minarets. Il y parvint après des semaines de marche aventureuse et la découvrit telle qu'il l'avait vue dans son sommeil. Mais sur le pont, près de la borne, à la place du trésor si clairement rêvé, il ne vit qu'un vieil homme misérable qui lui tendit une main tremblante, espérant un croûton de pain. Alors, désespéré, à bout de force et de ressources, il voulut se jeter dans le fleuve. Le mendiant le retint durement, lui demandant pourquoi il désirait mourir par un si beau temps. Le rêveur, déçu, lui conta sa malheureuse aventure.
« Tu es un insensé !» répliqua son compagnon. « J'ai moi-même 100 fois rêvé que je me trouvais à Ispahan, devant une maison couleur de terre ensoleillée à la façade ornée d'un cadran solaire à demi effacé. » Près de cette maison poussait un figuier, et, creusant sous ce figuier, je découvrais un grand sac de pièces d'or. Mais je ne crois pas aux songes clairvoyants, et je n'ai pas quitté ma tanière, tu aurais dû faire comme moi. »
Ces mots illuminèrent l'œil du pauvre paysan, qui reconnut à la description faite sa maison et son figuier. Il revint aussitôt à Ispahan, creusa sous l'arbre désigné, et trouva la fortune promise dont il jouit en paix jusqu'à la fin de ses jours. Ainsi finit la légende. Enfin le jour vint où moi, Julius Canaan, je fis le songe du paysan d'Ispahan. Je me trouvais à Vérone, en Italie. Au bout d'une ruelle pavée bordée d'arcades de pierres blandes, je parvenais sur une petite place paisible et somnolente. Un platane vénérable était planté en son milieu. Dans son ombre vaste trouée de raies de lumière, près de la boutique d'un coiffeur, je découvrais une haute façade étroite et rose. Au pied de cette façade m'attendait un sac de voyage en cuir noir, plein à ras-bord de billets de banque neufs, soigneusement empilés. À peine éveillé, je racontais ce rêve à ma femme. Il nous fut un sujet de plaisanterie. Le charme subtil du conte m'avait décidément enivré. Ma chère Aurélia me contempla avec un émerveillement tendrement ironique. Quant à moi, je ne parvins pas tout à fait à considérer mon voyage nocturne avec le détachement amusé qui eût certainement convenu. Ce rêve était de ceux qui s'imposent avec une étrange puissance, bien au-delà du sommeil. Et puis, je n'étais jamais réellement allé à Vérone. Comment pouvais-je en avoir une image aussi précise? Quand, le lendemain, je m'éveillais à nouveau habité par le même songe exactement répété, Aurélia ne pensa plus à sourire. Elle sut aussitôt, considérant mon œil vague et mon front barré de rides, que j'avais décidé de partir, tout à fait cessante, pour Vérone. Je devais absolument visiter cette ville blonde et grise déjà trop familière, ne serait-ce que pour vérifier l'exactitude de ma vision. En fait, l'aurais-je voulu? Il m'était impossible de ne pas suivre jusqu'à son terme le chemin de la légende. Je partis donc. Je découvris Vérone. Est-il nécessaire de le préciser? Tel que je l'avais vu en songe. et je trouvais sans faute la ruelle pavée bordée d'arcades, et la petite place somnolente, et la haute maison rose près de la boutique du coiffeur. Là, à l'ombre étroite de la façade, une vieille femme tricotait tranquillement, assise sur une chaise basse. Dans un italien approximatif qui l'amusa beaucoup, je lui racontais mon rêve et elle me raconta le sien avec une implication touchante. Puis j'appris qu'un homme viendrait bientôt frapper à ma porte et déposer à mes pieds une confortable fortune. Je la remerciai et m'en fus d'un pas serein. J'aurais dû être bouleversé. Je ne fus même pas surpris. Le soir même, je pris le train pour Paris. Le lendemain, en fin de matinée, j'étais de retour chez moi. C'est alors que je faillis mourir de douleur et d'effroi. L'appartement était de fond en comble ravagé. Sur le plancher de la chambre, ma femme gisait morte, enveloppée dans un drap sanglant. Des cambrioleurs nocturnes l'avaient assassinée. Aurélia serait encore vivante si je n'étais pas allé à Vérone. Et je n'aurais jamais connu cet homme souriant, gris et pâle, qui m'apporta dans un sac de voyage en cuir noir le montant de l'assurance-vie que ma chère compagne avait contracté dans sa jeunesse. Une confortable fortune dont je n'ai que faire, errant désormais en ce monde comme au fond d'un labyrinthe sous le soleil noir des souvenirs invivables.
ISTS 1, groupe E12, Martino Raphaël, Vermorel Virgile, Mocard Etienne, Beaumont Quentin et Pignero Alexis.